Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « L'âge d'or capétien 1180-328 ». Version compacte de Jean-Christophe Cassard est une synthèse historique consacrée au long XIIIe siècle français, période qui correspond à l'apogée de la dynastie capétienne. Publié dans une collection d'histoires médiévales reconnues, l'ouvrage propose une lecture structurée et accessible d'une époque marquée à la fois par l'affirmation du pouvoir royal, l'essor économique et la transformation des cadres sociaux et culturels. Le livre s'adresse d'abord aux étudiants, aux passionnés d'histoire de France et à tous ceux qui cherchent une vue d'ensemble solide sur la monarchie capétienne. Il met en relation les évolutions politiques, religieuses, urbaines et techniques, tout en soulignant les continuités et les tensions qui préparent les crises du XIIe siècle. Sa valeur tient aussi à sa capacité à relier des phénomènes souvent étudiés séparément, comme le sacre, la fiscalité, les cathédrales, l'administration royale et les rapports entre trône et autel. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la construction d'une monarchie capétienne plus souveraine que féodale. Le livre insiste sur une mutation décisive du pouvoir royal entre Philippe II Auguste, Louis IX et Philippe IV le Bel. La dynastie ne se contente plus d'exercer une suzeraineté féodale, elle élabore progressivement une doctrine de souveraineté qui renforce la légitimité et l'efficacité de l'autorité royale. Cette évolution explique la construction plus continue du territoire et de l'État. Au lieu d'une simple domination patrimoniale, Cassard montre ainsi comment les institutions, la justice, l'administration et la capacité à lever des ressources deviennent des instruments de consolidation politique. Cette lecture est importante parce qu'elle replace la monarchie capétienne dans un mouvement de longue durée où le roi n'est plus seulement un seigneur parmi d'autres, mais le centre d'une organisation politique en expansion. Le livre permet donc de comprendre comment se met en place l'une des bases de l'État français médiéval. Deuxièmement, un âge d'or économique porté par l'agriculture, les villes et les cathédrales. L'aile, un des apports majeurs de l'ouvrage, est de relier prospérité matérielle et grandeur capétienne. Le long XIIIe siècle est présenté comme une phase de forte dynamique agricole, du moins jusqu'au tour de 270, qui soutient l'essor des échanges, la densification urbaine et le financement des grands chantiers religieux. Cassard relie directement cette prospérité relative des campagnes à la floraison des cathédrales, à la vitalité des villes et à la stabilisation d'un réseau commercial plus vaste, notamment en Champagne et en Flandre. Cette approche évite de réduire le Moyen-Âge à une période uniquement politique ou religieuse. Elle montre au contraire que les transformations économiques, les progrès techniques et les formes nouvelles d'urbanisation sont indissociables de la puissance capétienne. Le lecteur comprend ainsi que l'apogée monarchique repose aussi sur une base matérielle et sociale et non sur la seule succession des règnes. Troisièmement, la sacralisation du roi et l'alliance du trône et de l'autel. Le livre accorde une place centrale au caractère sacral de la monarchie capétienne. Dans une société où la religion structure profondément la vie collective, le pouvoir royal se légitime par des signes spirituels forts, au premier rang desquels la canonisation de Louis IX et de son petit-neveu Louis d'Anjou. Cassard montre que cette dimension sacrée ne relève pas d'un simple décor idéologique, elle constitue un fondement politique du pouvoir. L'alliance étroite entre le trône et l'autel renforce la position du roi, même si elle s'accompagne de tensions avec la papauté, notamment dans les rapports avec les pontifes les plus attachés à la théocratie. Cette analyse permet de comprendre que la monarchie capétienne ne se consolide pas seulement par la conquête ou par l'administration, mais aussi par un travail de légitimation religieuse. Le roi apparaît alors comme une figure politique investie d'une autorité qui dépasse l'ordre féodal ordinaire. Quatrièmement, Reims, Paris et Saint-Denis comme géographie du pouvoir capétien. Un des points les plus parlants de l'ouvrage est l'attention portée aux lieux qui matérialisent la royauté. Reims, où se déroule le sacre, incarne la légitimation rituelle du roi. Paris, devenu capitale fixe, rassemble l'administration, l'université et la Sainte-Chapelle, ce qui en fait le cœur politique et intellectuel du royaume. Saint-Denis, enfin, assume le rôle de nécropole royale et de dépôt des insignes en inscrivant la continuité dynastique dans l'espace sacré. Cette triade permet à Cassard d'illustrer concrètement la monarchie capétienne comme système spatial autant que institutionnel. Le pouvoir n'est pas abstrait, il se donne à voir dans des lieux de mémoire, de culte et de gouvernement. Cette manière d'organiser l'analyse aide le lecteur à comprendre comment le territoire monarchique se construit aussi par des centres symboliques qui rendent visible l'unité du royaume et la permanence de la lignée royale. En dernier lieu, les signes d'un basculement vers la crise à la fin du XIIIe siècle, l'ouvrage ne se limite pas au récit d'un âge d'or. Il montre aussi les fragilités qui apparaissent après 1270. La crise du système féodal provoque difficultés, famines, chômage et troubles sociaux, annonçant les grandes ruptures du XIVe siècle. Dans le même temps, le pouvoir monarchique continue de se renforcer, notamment par l'association entre guerre et fiscalité, qui annonce des pratiques plus caractéristiques de l'État moderne. Cette tension entre déclin social et montée de la puissance royale donne à l'ouvrage sa profondeur historique. Cassar évite une vision trop simple d'une prospérité continue. Il montre que l'apogée capétienne contient déjà ses limites et ses mutations. Le livre est donc utile pour comprendre non seulement ce qui fait la force du XIIIe siècle, mais aussi les déséquilibres qui préparent la période suivante. Cette articulation entre prospérité, crise et transformation politique est l'un de ses apports les plus solides. En conclusion, ce livre convient particulièrement aux lecteurs qui souhaitent une synthèse fiable sur la France capétienne, qu'ils soient étudiants, enseignants, amateurs d'histoire médiévale ou lecteurs cherchant à mieux comprendre la formation du pouvoir royal français. Son principal intérêt est de proposer une vision à la fois large et structurée du long XIIIe siècle, en reliant la monarchie, l'économie, la religion, les villes et les mutations culturelles dans un même cadre explicatif, là où beaucoup d'ouvrages se concentrent soit sur les rois, soit sur les institutions, soit sur la société. Celui-ci articule ces dimensions avec une réelle cohérence. La version compacte rend en outre accessible une matière dense sans renoncer à la rigueur scientifique. Le lecteur y trouve une synthèse utile pour situer Philippe Auguste, Saint-Louis et Philippe le Bel dans une dynamique historique plus vaste, mais aussi des repères pour comprendre la montée de l'État, la sacralité monarchique et les signes de crise de la fin du XIIIe siècle. C'est ce double mouvement, apogée et bascule, qui distingue l'ouvrage de nombreuses autres synthèses sur le Moyen-Âge. Si vous souhaitez soutenir Jean-Christophe Cassar, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.